Monsieur Awazi Eric Manila, qui était avec vous. Au revoir.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 3 mai 2023. L'ONU dénonce des pillages au Soudan et veut des garanties pour l'acheminement de l'aide. Au Rwanda, plus d'une centaine de personnes sont décédées dans des inondations. 30 organisations appellent les juntes maliennes et burkinabées à protéger les journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la presse.
Nous avons travaillé et évalué en Afrique subsaharienne sur 48 pays. Et il y a 5 pays de cette zone qui sont dans une situation bonne et 19 dans une situation difficile et problématique. Et il y a 2 dans une situation grave qui sont l'Érythrée et le Djibouti.
Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, avec qui nous verrons les évolutions récentes de la presse sur le continent dans la partie magazine. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer le Kremlin. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Multéco pour l'instant, le journal. Au Soudan, les combats continuent au mépris d'une trêve qui doit être prolongée d'une semaine à minuit. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU exige des garanties pour pouvoir acheminer de l'aide aux populations. Les précisions de Mouamadou Mfa.
Des affrontements et des explosions se sont produits aujourd'hui à Khartoum, a rapporté un habitant, tandis qu'un autre a fait état d'avions militaires survolant la capitale. L'armée et les paramilitaires s'accusent mutuellement d'ignorer la trêve. Les Soudanais restés à Khartoum sont confrontés à d'importantes pénuries d'eau, d'électricité et de nourriture. Les étrangers continuent, eux, d'être évacués par centaines, surtout via Port-Soudan. L'émissaire de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, affirme que les deux belligérants se sont dit prêts à entamer des discussions techniques pour un cessez-le-feu uniquement, probablement en Arabie Saoudite. Un pays comme le Soudan qui a tant souffert, qui se trouve dans une situation économique et humanitaire aussi désespérée, ne peut se permettre une lutte pour le pouvoir entre deux personnes, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse à Nairobi.
L'opposition kényane suspend les manifestations antigouvernementales prévues demain jeudi après avoir conclu aujourd'hui un accord avec le gouvernement du président William Ruto. Dans un communiqué, l'alliance Azimio La Umoja, dirigée par Raila Odinga, a déclaré que ses leaders s'étaient réunis et avaient accepté de suspendre une fois de plus les manifestations de masse programmées pour demain. Lundi, la coalition avait repris les manifestations bi-hebdomadaires entamées en mars pour dénoncer la cherté de la vie et les fraudes présumées lors des élections de l'année dernière. 127 personnes ont été tuées dans le nord et l'ouest du Rwanda dans des inondations causées par les fortes pluies saisonnières. Les précisions de John Lindon.
La province de l'Ouest est la plus touchée avec au moins 95 morts, tandis que 14 personnes ont trouvé la mort dans la province du Nord, détaille l'agence rwandaise de radiodiffusion. Des images diffusées sur le compte Twitter de l'organisme des médias audiovisuels publics montrent des maisons détruites, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue. Des infrastructures ont également été détruites. Dans le district de Ngororero, dans l'ouest du pays, la crue de la rivière Nyambarongo a coupé la principale voie de circulation, rendant le district inaccessible par la route, ajoute la radio nationale rwandaise, prévenant que le niveau du cours d'eau continue de monter. La ministre de la Gestion des Urgences, Marie-Solange Kayisiré, a déclaré que les efforts de secours ont immédiatement commencé en aidant à enterrer les victimes et en apportant des fournitures à ceux dont les maisons ont été détruites.
Des organisations de presse appellent les juntes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso à protéger les journalistes de plus en plus menacés dans ces deux pays. Cet appel intervient à l'occasion de la Journée mondiale de la presse célébrée ce 3 mai. Alexandrine Ollognon.
30 médias, associations de journalistes et organisations de défense de la liberté d'expression interpellent les autorités maliennes et burkinabées. Entre les appels au meurtre des journalistes, les pressions, intimidations, suspension de certains médias et les agissements répressifs des autorités, les signataires de cet appel jugent que la situation des journalistes est devenue critique dans ce pays. Il demande aux autorités maliennes et burkinabè de mettre fin à toutes les mesures qui portent atteinte à la liberté de la presse et de garantir la protection des professionnels des médias. En outre, les signataires réclament des enquêtes impartiales, efficaces et indépendantes sur les abus. Reporters sans frontières évoquait dans un rapport en avril dernier les pressions exercées sur la presse au Mali et au Burkina Faso. L'organisation estime que le Sahel est en train de devenir une zone de non-information.
Le gouvernement allemand a entériné ce mercredi le retrait d'ici mai 2024 de ses troupes engagées dans la mission de casse bleue au Mali en raison des tensions avec la junte au pouvoir. Cette décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin fin 2022. Le gouvernement d'Olaf Scholz considère que les conditions ne sont plus remplies pour continuer à participer à la MINUSMA à laquelle l'Allemagne participe depuis 2013. En Sierra Leone, la voie se dégage pour Samora Camara, principal candidat d'opposition à la présidentielle. Un procès pour corruption présumée faisait planer un doute sur sa candidature. Le procès de Samora a été ajourné en fin de semaine, passé au 14 juillet. Donc après la présidentielle du 24 juin, il a officiellement enregistré sa candidature lundi auprès de la commission électorale. Le ministre français de l'Intérieur annonce la venue prochaine à Paris de son homologue des Comores, archipel qui refuse la reconduite à la frontière de ses ressortissants depuis le début de l'opération sécuritaire Wambushu à Mayotte. Nous utilisons tous les moyens diplomatiques pour renouer le contact, a indiqué Gérald Darmanin aujourd'hui. Paris a déployé depuis fin avril d'importants moyens pour déloger des migrants illégaux des bidonvilles de Mayotte. Quelques 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le candidat des États-Unis à la présidence de la Banque mondiale, Ajay Banga, a été élu aujourd'hui à la tête de l'institution par son conseil d'administration. Unique candidat déclaré, le nouveau président a assuré à plusieurs reprises vouloir donner la priorité au financement de la lutte contre le réchauffement climatique et à la réforme de la Banque mondiale. Il devrait prendre ses fonctions le 1er juin. La Russie affirme avoir abattu deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine à quelques jours de grandes célébrations militaires. L'Ukraine nie toute implication dans cette attaque. Le point avec Dani Talani.
La nuit dernière, le régime de Kiev a tenté de frapper le Kremlin, l'un des lieux les plus sécurisés du monde, a affirmé la présidence russe dans un communiqué. Selon elle, deux engins qui tentaient d'atteindre le siège du pouvoir ont été mis hors service par des systèmes de guerre électronique. La Russie se réserve le droit de prendre des mesures de représailles où et quand elle le jugera approprié à dénoncer le Kremlin. Monsieur Poutine n'a pas été blessé et il n'y a eu aucune victime ni dégâts matériels. L'Ukraine dit n'avoir rien à voir avec cette attaque présumée. De tels propos doivent être considérés comme une tentative de préparer un contexte pouvant servir de prétexte dans l'optique d'une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine, a déclaré Mikhailo Podolyak, un conseiller de Volodymyr Zelensky. Depuis la Finlande, où il s'est rendu en visite surprise, le président ukrainien a souligné que cette année serait décisive pour l'Ukraine et l'Europe face à la Russie, promettant de prochaines offensives contre l'agresseur russe.
La Russie a lancé dans ce contexte, dans la nuit de mardi à mercredi, des attaques aux drones kamikazes contre l'Ukraine, dont une vingtaine sur la capitale Kiev, qui ont été abattues par les unités de défense aérienne, tandis que 16 personnes ont été tuées dans la région de Kherson, ont rapporté les autorités ukrainiennes. Un adolescent de 14 ans a ouvert le feu aujourd'hui dans une salle de classe d'un établissement scolaire de Belgrade, en Serbie, tuant 8 élèves et un gardien avant d'être arrêté, a déclaré le ministère serbe de l'Intérieur. Un enseignant et 6 élèves ont été blessés et hospitalisés. Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les mobiles de la fusillade, a déclaré la police serbe dans un communiqué. Et puis le président iranien Ibrahim Raisi a estimé aujourd'hui à Damas que la Syrie de Bachar al-Assad avait remporté la victoire dans un pays déchiré par une guerre civile depuis 12 ans et dont Téhéran est l'un des principaux alliés. M. Raïssi s'exprimait à l'occasion de la première visite en Syrie d'un président iranien depuis 2010 dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région. Le président Assad a de son côté estimé que durant les périodes difficiles, les relations syro-iraniennes étaient stables et constantes malgré les graves tempêtes politiques et sécuritaires qui ont frappé le Moyen-Orient. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
Le Caire a conclu ce mercredi un accord préliminaire avec la société norvégienne Scatec pour réaliser des études d'interconnexion électrique entre l'Égypte et l'Europe via l'Italie. L'Égypte vise à exporter 3 gigawatts d'électricité qu'elle produira à partir d'énergies renouvelables vers l'Europe. Au Kenya, l'économie a ralenti à 4,8% en 2022, alors qu'elle avait progressé de 7,6% un an plus tôt, annonce le Bureau national des statistiques. Le ralentissement est dû à une grave sécheresse qui a nuit à la production agricole, alors que celle-ci représente habituellement environ 21% du PIB. L'industrie forestière et la pêche se sont aussi contractées de 1,6%. Les secteurs clés qui ont contribué à la croissance sont la finance, l'assurance, l'information, la communication, le transport et le stockage. Terminons par les prix du pétrole qui ont chuté de 4% mardi, soit le plus bas niveau en 5 semaines, parallèlement à une baisse des actions de Wall Street. Cette chute est causée par les inquiétudes concernant un défaut de paiement des obligations de Washington et les possibles hausses de nouveaux taux d'intérêt par les États-Unis et l'Europe. La pression contre le brut est aussi due en partie à la chute inattendue de l'activité manufacturière en Chine, première importatrice mondiale de brut.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Basketball Africa League, Seydou Legacy Athletic Club tombe une troisième fois dans la conférence Nil.
Oui, victorieux hier, pour la première fois en 3 matchs, les Guinéens se sont inclinés lors de leur 4e sortie ce soir devant le redoutable Petro de Luanda, 95-78. Les Angolais alignent ainsi 4 victoires en 4 matchs et sont qualifiés pour les playoffs prévus à la fin de ce mois à Kigali, au Rwanda. Toujours ce soir, battus mardi par les Égyptiens d'Alali, 91-75, les Mozambicains de Ferroviaro d'Abeira font face aux Sud-Africains de Cape Town Tigers.
Ici un NBA, Joel Embiid, désigné meilleur joueur de la saison.
Le Camerounais est devenu à 29 ans le 2e Africain de l'histoire désigné MVP de la saison régulière en NBA après le Nigérien Hakim Olajuwon, consacré en 1994. Son portrait avec Bagassi Koura.
Des collines de Yaoundé au sommet de la NBA, rien ne prédestinait Joel Embiid à devenir une star de la NBA. Le Camerounais a d'abord joué au foot, sport roi dans son pays, puis au volleyball, avant de s'improviser basketteur à 16 ans. « Je le jure devant Dieu, ma vie est un film. » Par ces mots, le joueur des Sixers a introduit sa success story en 2018 dans The Players' Tribune, un site offrant une plateforme d'expression aux sportifs professionnels. À l'été 2010, Joel Embiid se fait inviter à un stage organisé par Lukumba Amute, évoluant alors au Milwaukee Bucks. Il fait forte impression. 2 mois plus tard, il reprend l'avion pour la Floride afin d'intégrer un lycée. Il est inscrit à la Monteverde Academy. Les entraînements sont rudes. On le moque, trop maigre, trop doux. Il rebondit au Rock School à Gainesville dans le même état avant de poursuivre sa route à l'Université de Kansas à l'automne 2012. Il s'accroche, progresse pour la suite en regardant beaucoup de matchs de son idole. Le Nigérian Hakim Olajuwon, il s'inspire de sa technique, ses mouvements, son agilité, sa dureté défensive. Embiid est drafté en 3e position par les Sixers en 2014. Il ne fait ses débuts que 2 ans plus tard à cause d'une blessure au pied droit. Puissant, adroit, mobile du haut de ses 2,13 m et 127 kg, il se fait une place de titulaire à Philadelphie et un nom en NBA. Il enchaîne 6 sélections au All-Star Game, finit meilleur marqueur de sa ligue ces 2 dernières saisons. Avec un record personnel à 51 points dans un match, 2e derrière Nikola Jokic dans la course au trophée de MVP en 2021 et 2022. Le voilà enfin récompensé du trophée Michael Jordan. Ne lui manque plus désormais qu'un titre de champion père d'un garçon de 3 ans prénommé Arthur, comme son frère décédé en 2014, Joel Embiid a récemment obtenu sa nationalité américaine après avoir eu celle française.
Page d'espoir VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Reporters sans frontières affirme dans son rapport annuel que la situation de la liberté de la presse est la plus préoccupante actuellement dans le monde. Pour savoir les tendances et les évolutions récentes à prendre en compte en Afrique subsaharienne, Eric Manirakiza s'est entretenu avec Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne.
Nous avons travaillé et évalué en Afrique subsaharienne sur 48 pays. Et il y a 5 pays de cette zone qui sont dans une situation bonne et 19 dans une situation difficile et problématique. Il y a 2 dans une situation grave qui sont l'Érythrée et le Djibouti. Nous sommes dans une région où il y a eu un peu cette mixité de violations de la liberté de la presse en 2022. Nous avons vu des assassinats de journalistes, en tout cas des morts de journalistes dans des pays comme le Kenya qui a chuté de 47 places. Nous avons vu également des détentions de journalistes sur de longue durée dans un pays comme le Sénégal qui a chuté de 31 places également. Et nous avons vu de plus en plus un peu l'émergence un peu des insurrections patriotiques, notamment des régimes militaires comme au Mali, comme au Burkina, qui cherchent un peu à faire passer leurs actes, leurs messages clés par des journalistes sans aucune possibilité de vérification, mais qui leur impose un peu un agenda pour essayer davantage de contrôler le narratif. D'une manière générale, donc, c'est une situation assez difficile par rapport à la liberté de la presse dans le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne. Et l'industrie de la désinformation et du faux aussi est venue être une nouvelle tendance à laquelle nous avons assisté, notamment surtout dans les pays où les autorités cherchent à contrôler l'information et à en dominer son narratif.
À part la désinformation, quels sont les autres principaux défis à relever dans ces pays ou régions?
Il y a aussi, il faut le reconnaître, la prédominance des lois liberticides. De plus en plus, nous avons vu dans certains pays ou dans des contextes où il y avait une certaine dépénalisation des délits de presse. Et on a vu des pays qui ont essayé de contourner cela en mettant en place ce qu'on appelle un peu les lois du numérique, comme c'était le cas au Niger, mais qui l'ont amendé. Mais c'est toujours le cas dans un pays comme le Bénin, où la loi du numérique peut envoyer un journaliste en prison. On le voit en Afrique de l'Est également. On le voit également en Afrique, dans d'autres pays comme le Zimbabwe ou l'Ouganda, où quand même ces lois liées au digital ou au numérique ont des provisions ou en tout cas des articles extrêmement liberticides et qui peuvent cibler directement des journalistes et les amener en prison. Ça, nous l'avons vu à côté de la désinformation. Nous avons également vu cette tendance un peu, disons, à arrêter de manière arbitraire ou à développer des alibis pour dire que tel journaliste qui est mort par accident, alors que souvent c'est des morts qui ont été des morts préparées, des assassinats à la limite. Nous l'avons vu au Kenya, nous l'avons vu au Rwanda avec le cas de John Twali, et nous l'avons vu aussi récemment en janvier avec Martin Ezogo au Cameroun, un cas très emblématique et difficile également.
Sadibou Marong, responsable du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Au Burkina Faso, les journalistes et les médias font face à une restriction de leur liberté après 2 coups d'État, d'abord celui du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba et celui du capitaine Ibrahim Traoré. La liberté de la presse est plus que jamais remise en cause dans le pays. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Menaces, intimidations, suspension de médias, expulsion de journalistes, voilà ce à quoi les acteurs de médias sont confrontés au Burkina Faso. Issoufou Ouedraogo, un journaliste indépendant, a reçu des menaces directes.
Franchement, j'ai été vraiment assommé, interloqué par rapport à certaines réactions, même à des appels anonymes disant qu'ils vont me créer des insomnies, qu'ils vont m'agresser. Je tentais souvent de même
enregistrer certains appels. Je vais continuer à faire mon boulot tout en restant dans les règles de l'art et je n'ai pas peur de continuer à dire ce que je pense en respectant les règles prescrites dans le domaine du journalisme.
La liberté de la presse est mise à rude épreuve au Burkina. Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Les Reporters.
Malheureusement, cette année, l'UTROM intervient dans un contexte d'une crise multidimensionnelle, marquée non seulement par l'insécurité liée au terrorisme, mais également aussi par une crise institutionnelle liée au coup d'État que nous avons connu dans le pays. Et ces éléments de crise, qu'on le veut ou pas, impacte naturellement l'exercice de la liberté de la presse, impacte le travail quotidien des médias et des journalistes. Le pouvoir militaire en temps de crise, ça devient encore plus grave. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a comme l'impression, effectivement, aujourd'hui, qu'on est en train même de vouloir imposer des contenus et des orientations éditoriales aux médias.
Inoussa Ouedraogo, président du comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, président de la Société des éditeurs de la presse privée.
Ça fait 25 ans que le Centre national de presse Norbert Zongo célèbre chaque année la Journée internationale de la liberté de la presse. Et ça fait également 25 ans d'existence pour le Centre national de presse Norbert Zongo. Donc oui, nous célébrons à travers diverses activités cette journée-là qui est très importante pour nous. Compare la situation actuelle de notre pays à celle que nous avons connue il y a quelques années. On peut s'inquiéter que la liberté de la presse est menacée dans notre pays. Les journalistes sont intimidés, ils sont menacés au quotidien, y compris des menaces de mort. Des gens ont dit qu'ils allaient brûler des médias. Des calomnies, nous en vivons tous les jours.
Début avril, le gouvernement a expulsé deux journalistes, Agnès Fèvre, correspondante de Libération, et Sophie Douce, correspondante du journal Le Monde. Fin mars, il a suspendu France 24 et auparavant, en décembre 2022, le signal de la Radio France Internationale a été coupé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le classement 2022 de Reporters sans frontières place le Sénégal parmi les pays où la liberté de la presse est en net recul. Ce classement met en relief l'emprisonnement de certains journalistes et les difficiles conditions de travail d'autres sur le terrain. Cependant, les associations des professionnels des médias émettent quelques réserves. La correspondance à Dakar de Seydina Bagay.
Un grand bond en arrière, telle est la situation du Sénégal en matière de liberté de la presse, d'après Reporters sans frontières. Classé 104e, le Sénégal a perdu 31 places. Un recul qui se justifie d'une part, d'après Bamba Kassé, secrétaire général du SENPIX, le syndicat des journalistes sénégalais.
Donc nous sommes un pays où la liberté de la presse est garantie. Maintenant, dans la pratique, il arrive très souvent qu'il y ait des faits ou actes qui sont aux antipodes de cette liberté-là. Et c'est ce qui nous vaut souvent d'avoir donc des chutes dans les classements et autres, quoi.
Ces faits aux antipodes de la liberté de presse sont dénoncés par Migi Maram Ndiaye, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal.
Il y a des confrères qui sont arrêtés ces derniers mois. Pape Ndiaye, un confrère qui était un ancien président également de la Convention, se trouve depuis 2 mois dans les prisons. Pape Alenia également a duré presque 3 mois dans les prisons sénégalaises. Sur ce plan, nous pouvons dire qu'il y a une menace. Il y a également les reporters qui sont souvent victimes de violences sur le terrain lors des événements qui sont organisés.
Migi Maram Ndiaye attire également l'attention sur les conditions des journalistes, un critère souvent oublié dans l'évaluation de la liberté de presse.
Nous avons mené une étude, mais les premiers résultats sont inquiétants parce que la plupart des reporters, disons 17% des reporters, ne reçoivent pas un salaire à la fin du mois. Et ceux qui reçoivent également un salaire sont sous-payés. Une situation qui est difficile et une réponse doit être apportée par rapport à ça parce que on ne peut pas parler de liberté d'expression, de liberté de presse sans pour autant également lutter contre la précarité.
Bamba Kassé, secrétaire général du syndicat des journalistes sénégalais SENPIX, s'interroge également sur les critères de ce classement.
C'est que je ne peux pas comprendre quand même que des pays qui sont aujourd'hui dirigé par des juntes militaires, puisse être mieux placé que le Sénégal. Alors que c'est des pays qui n'ont même pas de régime de système démocratique actuellement. Donc là aussi, ça pose un autre problème. Et le dernier point d'étonnement, c'est que le SEMPIX, qui habituellement était destinataire donc du document pour noter le Sénégal, ça fait 2 ans qu'on ne reçoit plus ce document-là. Donc on n'a pas participé au vote.
Pour les syndicats et associations de presse, la liberté d'expression est globalement bien portante au Sénégal, même s'il faut reconnaître des abus qui la violent de plus en plus. Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique, Dakar.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Tchad, pour la Journée mondiale de la liberté de la presse, le thème retenu est la responsabilité sociale des journalistes en période de transition, une occasion saisie pour faire un état des lieux dans les médias nationaux. André Kodmajinga, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena, nous en dit plus.
Je dirais que la liberté de la presse aujourd'hui au Tchad est sans limite au point où tout le monde peut s'improviser journaliste. Alors que se prévaloir du titre de journaliste sans lettre, c'est une usurpation du titre et donc sanctionné par le code pénal tchadien.
Abdraman Barka Doningar, président de la Hama, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, tout en déplorant le désordre dans la pratique du métier au Tchad, il invite les professionnels des médias d'être jaloux de leur métier. Les journalistes indépendants estiment quant à eux que la loi qui régit le métier au Tchad est liberticide puisqu'elle limite les pratiques du journalisme.
On nous défend par exemple de parler des forces de fond civique. Et on a en ce moment une haute autorité des médias et de l'audiovisuel qui est devenue pratiquement un tribunal. Il est devenu un juge de répression des infractions, des délits de droit commun, comme la diffamation, qui relève de la compétence du juge judiciaire.
Avenir de la tirée journaliste indépendant et directeur de publication du journal La Bagarde. La réaction du président de la Hama, l'autorité de régulation Abdraman Barka Doningar, ne se fait pas attendre.
Je ne pense pas qu'il donne le pouvoir judiciaire à la Hama, non. La Hama sanctionne préventivement pour des cas graves. Mais ces décisions sont susceptibles de recours devant la plus haute juridiction. Jusque-là, nous n'avons amendé aucun média. Pour certaines conditions, si seulement c'est le juge qui intervenait sur la plainte surtout de l'État, ils allaient être sanctionnés lourdement parce qu'ils n'avaient pas pour la plupart la qualité de journaliste professionnel. Et ils ont commis de fautes en utilisant juste un moyen de communication. Que les gens comprennent que parfois c'est dans leur intérêt que la Hama était intervenue.
S'agissant de la liberté de la presse au Tchad, les organisations professionnelles des médias estiment qu'elle est utopique sous le régime de transition. Pour la présidente de l'Union des femmes professionnelles de la communication du Tchad, Halima Sadia Ali, le Tchad a des beaux textes qui consacrent la liberté de la presse, mais l'application pose problème.
Il y a des journalistes qui sont parfois menacés, tabassés. Malheureusement, cette année, au cours d'événements qui ne sont pas liés directement à l'exercice de la profession, on a perdu aussi des professionnels. Je pense qu'il n'y a pas de liberté totale. Mais nous devons faire en sorte qu'on puisse avoir le plus de liberté possible pour pouvoir exercer, aussi bien sur le plan des textes que dans la pratique.
Le président de l'Union des radios privées du Tchad, Sony Mekondo, déplore le manque d'accès aux sources de l'information qui, selon lui, est un fondement même de la liberté de la presse.
Il faut le dire sincèrement que les journalistes ont tellement de difficultés au Tchad. D'abord, l'accès à l'information, en tant que président de l'Union des radios privées du Tchad, je déplore ça. Quand il y a un événement où les journalistes viennent pour couvrir, les forces de l'ordre ne les ratent pas. On vous chasse comme des malpropres. Par rapport à la rareté de gaz, de carburant, ces derniers temps, pas d'électricité, tout ça, quand on vient vers ceux-là qui doivent parler, les gens n'acceptent pas.
André Kodumadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'avenir des travailleurs dans une économie mondiale en perpétuelle mutation. La fête internationale du travail a été célébrée cette année dans un contexte post-Covid qui a suivi 3 années de pandémie et ont durement affecté le monde de l'emploi. L'OIT appelle à une mobilisation pour remodeler les politiques économiques, sociales et environnementales pour un avenir plus stable et plus équitable. Quel avenir pour le marché du travail? Quel rôle pour les syndicats avec la baisse de l'emploi salarié? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.